Et c'est vrai que les Français sont totalement fous de leurs animaux de compagnie, avec 11 millions de chats, 7 millions de chiens. L'Hexagone donc se trouve en tête des pays européens, et jamais dans l'histoire commune des hommes et des bêtes, les animaux familiers n'ont pris autant de place, avec les chiens donc et les chats en particulier. Des livres, des expos, des études scientifiques, ils sont au cœur d'une actualité foisonnante pour comprendre la nature de nos relations avec chiens et chats, et c'est le dossier de la Tête au Carré. On en parle dans un instant avec mes invités, vos messages et vos questions, franceinter.fr. Également le mot-clé, la TAC. Et puis d'autres animaux à la une de la science aujourd'hui, mais ce sont des rats au cœur d'une simulation d'un voyage spatial avec une expérience grandeur nature qui va démarrer le 13 mai et dont l'objectif est de préparer aux futures missions vers Mars. Nos invités vont nous en dire plus. Voilà pour le sommaire de cette Tête au Carré, Violaine Balerelli. Cette émission qui a été préparée par Fanny Cohen-Moreau, Sylvain Guilbeault et Nassim Chik.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Pourquoi tant d'amour pour nos chiens et nos chats? C'est donc le dossier dans un instant. Vinciane Després, Claude Beata et Antonio Fischetti, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Claude Beata. Pourquoi les Français sont-ils dingues de leurs chiens et de leurs chats devant tous les autres pays européens apparemment?
Il y a sans doute réellement des racines historiques en France plus profondes, avec une passion à la fois pour des utilisations aussi comme la chasse, mais surtout comme la compagnie, avec un attachement clair à ces deux espèces qui nous accompagnent au quotidien.
Et on va beaucoup parler d'attachement justement avec vous. Vinciane Després, pourquoi est-ce qu'on refuse de manger nos chiens ou nos chats alors que déguster un lapin ou un poulet ne nous pose absolument aucun problème?
Et ça dépend du lapin et du poulet justement.
Oui, c'est vrai.
Si moi de lapin, t'as lapin de compagnie, ce sera beaucoup plus difficile.
Ou un poulet de compagnie aussi.
Poulet de compagnie, bon, c'est pas très bien. Non, le poulet de compagnie également. Et simplement, je pense parce que ça nous dégoûte. Parce qu'une fois qu'on a créé un certain type de relation affective, il n'est plus possible de passer dans un autre registre.
Ouais. Antonio Fischetti, la queue du chien a été très étudiée par les scientifiques et apparemment elle manifeste différents signes selon le côté où elle penche. Hein.
Et oui, ça peut paraître étonnant, mais des études extrêmement sérieuses ont montré que le chien ne remue pas de la même façon sa queue du côté gauche ou du côté droit selon son état affectif. S'il est content, par exemple s'il voit son maître, il va plutôt battre plus loin du côté droit. Et s'il est excité, mais tout en étant dans un état un peu, disons, tendu, négatif, il va plutôt battre du côté gauche.
Voilà.
Ça paraît bizarre, mais c'est très sérieux.
La symétrie de la queue chez le chien, étudiée donc par les scientifiques. On a plein de choses à te raconter hein, dans un instant. Et beaucoup de questions aussi pour vous, avec les messages sur franceinter.fr. À la une de la science aujourd'hui, une expérience grandeur nature qui va démarrer dans un laboratoire de Barcelone afin de préparer les futurs voyages spatiaux vers Mars.
Depuis la nuit des temps, l'être humain rêvait de voyager dans l'espace. L'invention de la fusée fit de ce rêve une réalité. Mais avant que l'être humain accomplisse courageusement ce premier pas de géant, des êtres courageux embarquèrent dans la fusée.
Et ces êtres courageux, ce seront donc des rats, les cobayes de ce projet Mélissa. La semaine prochaine, un équipage de rats va être mis à l'épreuve au sein de l'Université Autonome de Barcelone. Donc ils ne seront pas tout à fait dans une fusée. Christophe Lasseur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous et vous êtes le chef du projet Mélissa pour l'Agence Spatiale Européenne. Et puis avec nous en plateau, notre spécialiste de l'espace, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace, Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Christophe Lasseur, que va-t-il se passer exactement à Barcelone la semaine prochaine pour nos rats?
Alors, la semaine prochaine, ce sera la première étape de l'intégration de notre écosystème artificiel qui s'appelle Mélissa. L'idée étant de recréer un écosystème qui nous permette de recycler tous les déchets de la mission de façon à produire de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture. Alors évidemment, aujourd'hui, étant donné notre niveau de connaissance et étant donné aussi les coûts, on commence d'abord par des étapes avec un équipage de rats qui aura juste comme fonction de consommer l'oxygène et de produire du CO2.
Donc petit équipage, hein, je crois, pour commencer.
Alors petit équipage, un petit équipage de 4... Quatre individus, tous volontaires, et sur lesquels on compte beaucoup pour démontrer notre efficacité.
Et ensuite, donc, vous allez amplifier la cohorte, c'est ça?
Voilà, alors, l'idée sur le site de Barcelone, c'est de faire une démonstration à l'échelle d'un humain. Et là, pour pouvoir simuler la même taille, on sera sur 40 rats.
Mmh. Alors, le projet Mélissa, donc, ça fait déjà plusieurs années, hein, je crois, qu'il a commencé. L'objectif, donc, c'est ça, c'est de préparer vraiment des missions très très longues dans l'espace.
Alors, l'objectif de Mélissa, effectivement, c'est d'acquérir de la connaissance pour préparer les missions futures. Que ce soit au niveau du recyclage, de la production d'oxygène, nourriture, et bien sûr d'eau, et aussi tout ce qui est sécurité, en sécurité chimique, microbiologique. Voilà.
Philippe Hénarejos, on a toujours utilisé les animaux hein, avant d'envoyer les hommes dans l'espace.
Hein. Oui, ils ont
payé un lourd tribut.
Ils ont été les premiers à aller explorer l'espace. Ouais. Ça continue. Non, là, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on a un problème quand on envoie des hommes dans l'espace, c'est que l'espace est le milieu le plus hostile qui existe. Mmh. Il n'y a pas pire. Donc, il faut tout transporter. Il faut recréer un écosystème. Il faut un vaisseau, finalement, c'est une mini planète Terre, presque. Mmh. Sauf à la différence près qu'il ne permet pas aux hommes qui sont dedans de vivre comme ça, dans un milieu fermé, comme nous le faisons tous sur cette Terre. Mmh. Et donc, l'expérience Mélissa, qui dure déjà depuis plus de 10 ans, je crois, explore ça pour permettre justement d'abord d'emporter moins de poids. Parce que quand on va dans l'espace, on lance les vaisseaux avec des fusées, on n'a pas trouvé mieux. Donc ça a un coût énorme. Et donc si on peut s'éviter, pour une mission longue par exemple, d'emporter de l'eau en quantité suffisante pour boire et se laver, etc., il faut recycler tous les fluides qu'on emporte. Et c'est à ça que ça sert. Ça sert à améliorer ce rendement, si vous voulez. On n'en est pas encore à faire une deuxième biosphère comme la Terre.
Justement, Christophe Lasserre, comment vous allez faire dans ce laboratoire de Barcelone pour recréer donc les conditions d'un voyage long pour le problème de l'eau, par exemple, qui est crucial pour des êtres humains?
Alors, Mélissa est basée sur un écosystème terrestre. Hein. En fin de compte, c'est un lac qu'on a plus ou moins coupé en tranches, si je puis dire, de façon à ce que les ingénieurs puissent le comprendre et le caractériser. Et ensuite, on assemble ces morceaux du lac, si vous voulez, de façon à avoir un écosystème global. Et tout le challenge du site de Barcelone, c'est de réussir, grâce à des lois mathématiques, grâce à la connaissance qu'on a acquis, à contrôler ces procédés pour pouvoir maintenir notre équipage en vie.
Et alors pour l'eau, comment vous allez faire par exemple?
Alors pour l'eau, il y a deux façons de faire pour l'eau. Soit une filtration, ce qu'on a déjà démontré sur le site de Concordia. Hein, depuis déjà maintenant 7 ans, le site de Concordia au pôle sud utilise notre technologie de recyclage d'eau. Mmh. Soit utiliser aussi la transpiration des plantes. Parce qu'en fin de compte, le producteur de Mélissa, c'est des algues et des plantes. Et les algues et les plantes, par photosynthèse, transpirent, produisent de la nourriture et de l'oxygène.
Alors la difficulté justement, c'est la nourriture. Hein. Donc là, ce sont des procédés particuliers avec des plantes, des algues qui sont mis en place. Hein.
Voilà. Alors dans Mélissa, il y a deux compartiments producteurs. Le compartiment micro-algues, hein, qui est colonisé par des spirulines, qui est un micro-organisme relativement bien connu maintenant. Et puis des serres, pour simplifier, où là, on va retrouver des espèces végétales classiques, hein, du blé, de la tomate, du soja, de la pomme de terre, et ainsi de suite. Oui.
Et vous visez quelle autonomie, exactement?
Alors, on vise au minimum pour les premières missions, et quand je parle de premières missions, c'est les premières démonstrations au sol, on vise 20% sur la nourriture. Sachant qu'à partir de 40% de recyclage sur la nourriture, on boucle aussi les boucles oxygène et les boucles eau. Donc le challenge final, c'est vraiment la nourriture.
Alors Philippe, c'est pas le seul projet de ce type, hein. Il y en a eu d'autres, et pas mal d'échecs d'ailleurs dans ce domaine, hein. C'est compliqué à mettre en place.
Alors il y avait eu un projet il y a quelques années, qui avait commencé en 87 et qui avait été opérationnel en 91, ça s'appelait Biosphère 2. C'était la première tentative, en tout cas médiatisée, de recréer un écosystème totalement fermé, totalement autonome. Mm-hmm. Ça se passait en Arizona et il y avait un équipage qui s'était enfermé pour plusieurs mois. Et on s'était aperçu à l'époque, dans cette première expérience, que ça marchait pas fort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'atmosphère commençait à devenir de plus en plus irrespirable. Il y avait des plantes, il y avait un lac, il y avait des animaux, il y avait des insectes. Oui. Et il y avait un déséquilibre qui s'était créé assez rapidement, de sorte qu'il avait fallu réinjecter de l'oxygène artificiellement, donc ceux qui avaient un peu non validé l'expérience, mais ça avait démontré une chose, une première chose dont je crois Mélissa tient compte, parce que c'est une expérience qui dure depuis des années, c'est que l'écosystème terrestre est extrêmement complexe, il y a énormément de paramètres. On parle souvent de climatologie où il y a beaucoup de paramètres mathématiques à entrer en compte pour essayer de comprendre ce qui se passe avec le climat. Pour l'écosystème, à mon avis, c'est exactement la même chose, on s'aperçoit que c'est extrêmement complexe, et j'espère que, en tout cas, au moins Mélissa, s'il ne prépare pas les voyages sur Mars, parce que vous savez très bien ce que j'en pense, je crois qu'il n'y a
vous
pas de financement.
Vous êtes plus que sceptique.
Je suis sceptique sur la réalisation, parce que ça demande énormément de milliards de dollars ou d'euros, et qu'ils ne sont pas engagés. Donc, même si ça ne prépare pas un voyage sur Mars, j'espère au moins que ça permet de mieux comprendre notre écosystème. Le seul qui marche à fond, qui marche bien, et qui est la Terre, c'est notre vaisseau spatial, et il faut en prendre soin.
Christophe Lasseur, vous prévoyez des victimes collatérales, j'imagine, chez les rats, par rapport à cette complexité que vient d'écrire Philippe Hénarajos?
Ah, pas du tout.
Ah
pas
non,
du tout.
Vous allez les maintenir en vie coûte que coûte.
Nous avons toutes les mesures de sécurité autour de la photosynthèse, si je puis dire, pour pouvoir avoir les méthodes de secours pour que nos rats restent en vie. Donc non, on est vraiment sur des normes spatiales au niveau sécurité. Donc on ne peut pas se permettre de prendre ce genre de risque.
Bon, on fera le bilan avec vous alors dans quelques semaines, vous êtes d'accord?
Avec plaisir.
Allez, 4 rats pour commencer donc le 13 mai, puis ensuite la quarantaine qui arrive, et pour recréer donc les conditions d'un voyage long dans l'espace. Merci Christophe Lasseur et Philippe Hénarajos d'être venus nous en parler aujourd'hui à la Une de la Science. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'autotest du sida arrive en France. On en a parlé la semaine dernière, commercialisé au Royaume-Uni. Et bien ce dispositif qui teste la séropositivité en 15 minutes va être mis en vente dans les pharmacies à partir de juin prochain donc dans notre pays. S'il ne s'agit pas d'un diagnostic complet mais d'une simple détection des anticorps produits lors de l'infection au VIH, les spécialistes saluent néanmoins l'arrivée d'une arme de plus dans la lutte contre la propagation du virus. Les chats aussi sont mélomanes. Tiens, pour nous introduire à notre dossier, des chercheurs portugais ont fait écouter plusieurs genre de musique à des chats sous anesthésie générale. Et selon l'étude publiée dans le journal de médecine et de chirurgie féline, ils seraient plus calmes lors de la diffusion de musique classique. Les vétérinaires espèrent ainsi pouvoir limiter la quantité de produits anesthésiants utilisés lors d'opérations et donc limiter leurs effets secondaires sur l'animal. Mais si écouter de la musique détend encore, faut-il pouvoir se l'enlever de la tête? Des chercheurs de l'université de Reading en Angleterre ont testé la capacité de plus de 100 personnes à avoir une chanson dans la tête sans parvenir à s'en défaire. Et il s'avère que la mastication d'un chewing-gum aiderait fortement à oublier les mélodies qui vous trottent dans l'esprit. La gomme à mâcher a déjà prouvé ses effets sur nos capacités cognitives, notamment sur la mémoire et l'afflux sanguin au cerveau. Chien et chat, le dossier de la tête au carré dans un instant.
Talk business together, and we pretty understand each other. Why sticking me up for a extra? I got to run, run, run for my life. I got to run from those wicked guys. I'm just a man, not a rich man, a Rasta man. Yes, I always like to trust a lot of ones, but it seems to me like something going wrong. I got to run, run, run for my life. I got to run from those wicked guys. I'm just a man, not a rich man, a Rasta man. Yes, the music business is not like before. Distribution gets so desperate. You got to be careful dealing with distribution. Without the artist, there is no company. I got to run, run, run for my life. I got to run from those wicked guys. I'm just a man, not a rich man, a Rasta man. This record store pretty soon everyone will own, and everyone will be selling their own. Internet. I got to run, run, run for my life. I got to run from those wicked guys. I'm just a man, not a rich man, a Rasta man. This upcoming artist, you should take your stand. Get some understanding before you sign. A little later they say you are mine. I got to run, run, run for my life. I got to run from those wicked guys. I'm just a man, not a rich man, a Rasta man. Yes, you got to be careful dealing with the business. You never can tell what might kill your image. Yes, the seed you sow
the food you reap. I got to run, run, run for my life. I got to run from those wicked guys. I'm just a man, not a rich man, a Rasta man. People try to put themselves in your peaceful life and want all the attention for their own life. I got to run, run, run for my life. I got to run from those wicked guys. I'm just a man, not a rich man, a Rasta man.
Run for your life, Burning Spear, avec la programmation musicale de Jean-Michel Montu.
Mathieu Vidard.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de chaleur humaine.
Jusqu'à 15h.
Je m'en occupe.
Sur France Inter.
Des chiens, des chats, donc, dans le dossier de la tête au carré, avec une abondante actualité qui leur est consacrée. Un livre d'abord, Chiens et chats, pourquoi tant d'amour? C'est aux éditions Belin, avec deux de ses auteurs, Vincent Després. Donc, vous êtes psychologue, éthologue, philosophe des sciences, professeur à l'Université de Liège. Et puis, Claude Beata, vous êtes psychiatre vétérinaire, spécialiste de l'attachement, et vous êtes pionnier en France de la médecine vétérinaire comportementale. Et puis, donc, à signaler cette exposition à la Cité des sciences, Chiens et chats, c'est jusqu'au mois de février. Un livre jeune public, Chiens et chats sous la loupe des scientifiques, aux éditions Actes Sud Junior, que vous signez Antonio Fischetti. Vous êtes journaliste scientifique et réalisateur de séries documentaires. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et toutes les questions. Alors juste un mot, on va faire une petite parenthèse au sujet de nos rats dont on parlait tout à l'heure. Il y a un message de Marie qui nous dit ceci. L'utilisation d'animaux dans l'espace est évoquée avec beaucoup de décontraction. Aucun domaine de la recherche ne devrait échapper à une interrogation éthique. Si cette interrogation était appliquée à toutes les activités humaines, cette Terre serait plus aimable à vivre. Vincent Després, qu'en pensez-vous? C'est vrai que c'est toujours amusant d'entendre parler de rats qui vont expérimenter donc les voyages longs dans l'espace, mais on doit avoir une vraie réflexion éthique autour de ça, selon vous?
Je pense que la réflexion éthique, elle l'accompagne, parce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de mener une expérimentation sans avoir une réflexion éthique. Alors, savoir si elle est suffisante, ça c'est une autre question. Ouais. De toute façon, il y a quelque chose qui me rassure dans cette expérience, c'est qu'ils ont tout intérêt à ce que les rats soient bien et à ce qu'ils restent vivants. Parce que si jamais il y a un rat qui meurt, l'expérience est mal engagée. Et en plus, qu'est-ce qu'ils vont faire du cadavre? Ça, c'est la question que je me posais aussi.
Ils sont pas volontaires, ces pauvres rats. On leur a pas demandé.
Alors là,
leur
ils sont
avis.
Pas volontaires. Et c'est vrai qu'on peut remarquer que maintenant, quelques expérimentations commence à demander à ce que les animaux soient volontaires et se fondent sur cette idée.
Oui, mais comment ça se manifeste, un animal volontaire?
Alors, à Marseille, à Aix, Claude peut y répondre parce qu'il connaît mieux cette expérience.
Par exemple,
moi.
Dans des centres de primatologie, les singes ont des endroits pour aller travailler et ils y rentrent volontairement. S'ils ne veulent pas aller travailler, ils n'y vont pas.
Ah, c'est pas mal, oui.
Et donc, quand ils rentrent, ils ont un collier qui les reconnaît, ça leur propose leur exercice pour eux, en plus. Ouais, donc, c'est très personnalisé. Donc, ça demande déjà une participation volontaire de l'animal.
63 millions d'animaux de compagnie en France, au moins deux fois plus qu'il y a 30 ans, et parmi lesquels, donc, 11 millions de chats, 7 millions de chiens. Avec ce petit message, tient de Félix aussi, peut-être que la France est le pays où il y a plus de chats et de chiens, mais c'est aussi celui où il y a le plus d'abandon de chats et de chiens, et souvent dans des conditions abominable. Je crois que si la majorité de nos compatriotes peuvent aimer leurs chiens et leurs chats et manger les autres, c'est parce qu'ils considèrent leurs animaux comme un prolongement d'eux-mêmes jusqu'à l'arrivée du bébé ou des vacances. Vincent Després.
Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Et je pense que ça, c'est un argument qui revient très souvent, qui dit que les animaux sont des substituts, des ersatz, etc. C'est un argument qui a été porté par une certaine sociologie à un moment donné, qui partait sur un principe simple, c'est-à-dire le principe de l'exceptionnalisme humain et du fait que aimer des animaux, c'est toujours un faute de mieux. Et donc, je pense qu'on part avec un faux raisonnement dès le départ pour tenter de rendre compte ça. Qui est des abandons, mais ça, Claude pourrait en parler mieux que moi.
Mais oui, je le dis dans le livre, c'est pas vrai. Réellement, c'est faux. C'est-à-dire, ce qu'on voit, notamment en psychiatrie vétérinaire, les personnes qui nous amènent des animaux, c'est pas des gens seuls qui ont qu'un animal et tout ça. Ceux-là viennent pas nous voir, d'ailleurs. Généralement, ils sont dans une fusion qui va bien. Ce qu'on voit, c'est la famille, j'allais dire la famille classique, le couple. Des fois, il y a des enfants, des fois, il n'y en a pas. Et ils ont un animal, et cet animal va pas bien, et ils ne veulent pas le laisser dans son état de souffrance. Et réellement, c'est tellement rarement du faute de mieux, quoi.
Ouais, Antonio Fischetti, comment choisit son animal de compagnie parce qu'il nous ressemble vraiment. Il y a des études aussi très sérieuses qui ont été faites là-dessus, hein, avec même des photos, des comparaisons.
Oui, alors on dit souvent que les chiens ressemblent à leur maître et vice-versa. Eh bien, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que c'était le cas. Alors, avec les chiens et avec les chiens de race particulièrement. Pourquoi? Eh bien, en fait, tout simplement parce que quand on choisit un chien, en général, c'est le maître qui choisit un chien, il choisit quelque chose qui, chez l'animal, lui rappelle un trait qu'il se sent, enfin, possédé, qu'il croit avoir lui-même.
Une personne coquette c'est... s'orientera plutôt vers un chien élégant. Un homme viril choisira un chien musclé. Hein.
Oui, oui, et ça peut être vraiment très subtil, une forme de visage, un, disons, un aspect psychologique. Un ouais. chien raffiné, par exemple, va attirer quelqu'un qui lui-même se voit comme étant raffiné, ouais. etc.
Claude Beata, il faut observer aussi la promenade entre le maître et son chien.
C'est... Mais ça, c'est toujours amusant parce qu'en fait, 10%, il n'y a que 10% des chiens qui sont des chiens de race. Donc ça veut dire que 90% des gens choisissent un chien qui ressemble
bon
à
bâtard,
rien.
Un bon bâtard, voilà. Et on se reconnaît dans son bon
Donc
bâtard.
Donc ils se reconnaissent dans quelque chose qui est ouais. mélangé, en fait.
Pour redire un mot juste de l'aspect scientifique, hein, de comment est-ce qu'on prouve ça, c'est on montre des photos de chiens et des photos de leur maître et qu'on les montre dans le désordre à des gens qui ne les connaissent pas. Les gens arrivent à retrouver les photos de. Identifier les bons maîtres avec les bons chiens.
Oui. Alors, la domestication justement du chien et du chat, ça remonte à quand ? Éviron demande la présence du chat domestique dans les foyers. Est-elle plus récente que celle des chiens ?
Ah non, 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 c'est les chiens.
Béata.
C'est le chien d'abord. Et ça, c'est formidable au sens strict. Ça fait un peu peur parce qu'il y a plusieurs milliers d'années d'écart entre la présence du chien à côté de l'humain et la présence du chat. En gros, le chat n'arrive avec l'humain que quand les humains deviennent sédentaires.
Ouais.
Alors que le chien est avec les humains quand ils sont encore des chasseurs-cueilleurs qui n'arrêtent pas de se déplacer.
Ouais. Après, il y a le stockage de l'alimentation qui commence à poser problème.
C'est à partir du moment où on s'arrête, on fait de l'agriculture, on stocke l'alimentation, qu'on invite le chat à venir voir s'il pouvait chasser les souris.
Ouais.
Mais le chien est là depuis bien plus longtemps. On parle de 15 000, de 30 000 ans. On ne sait plus où on va s'arrêter.
Et les loups, parce que les loups, évidemment, il y a eu une confrontation un peu parallèle, Vincent Després, entre les hommes et les loups.
Mais c'est-à-dire que c'est là où on voit d'ailleurs une des origines possibles du chien, et ça, je veux dire que c'est le fait que des loups aient accompagné, à un moment donné, les chasseurs, aient aidé à la chasse parce qu'ils étaient extrêmement efficaces, qu'ils sont devenus très complémentaires, et puis la domestication se serait opérée sur un processus un peu semblable à cette fameuse expérience qui a été menée en Russie, c'est-à-dire de sélection des animaux les plus sociables, les moins craintifs, etc., qui auraient finalement transformé les loups en chiens. Mmh. Donc, en tout cas, les anthropologues australiens ont envisagé cette hypothèse. Eric Baraté en parle lui-même. Toi-même, tu en parles aussi dans le livre, Claude, si mes souvenirs sont bons. Et alors, il y a une autre hypothèse, qui est l'hypothèse de Digard, qui dit, ah ben non, c'est pas du tout utilitaire, c'est pas du tout des chasseurs ensemble. Ce serait plutôt une hypothèse à ce moment-là de dire que c'est l'homme qui a voulu assumer qui a domestiqué pour domestiquer. Donc, c'est une espèce de prise de pouvoir sur l'animal. Moi, j'aime encore bien l'hypothèse des chasseurs parce que je trouve qu'elle est extrêmement intéressante de penser que c'est une hypothèse qui a transformé, puisque on a remarqué que c'est une hypothèse qui a pu en effet transformer les manières d'être au monde, les usages du monde, puisque les hommes ont pu laisser tomber, enfin, de certaines manières, au moins dû mobiliser certaines compétences et qu'ils ont donc été transformés par ça, et que les loups ont pu aussi, en devenant chiens, ne plus mobiliser certaines compétences nécessaires à la survie du fait de la présence d'un autre être.
À quoi on voit justement que les loups sont devenus chiens véritablement alors?
Alors, ben, au niveau génétique, au niveau de l'aspect, et aussi, il y a un truc, par exemple, chez le loup, le chien sait suivre le regard. Et ça, le loup ne le fait, enfin, suivre le regard. Ah, Claude n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Enfin, les expérimentations que j'ai pu lire.
Apparemment, la cavité crânienne aussi sera un indicateur.
Le débat autour du chien et loup, c'est très intéressant parce qu'à un moment, bon, voilà, maintenant tout le monde est d'accord, tous les chiens viennent des loups. Ça c'est sûr.
Oui. Hein.
Mais alors, il ne faut plus comparer le chien avec le loup parce que dans le loup, il y a de la dominance. Chez le chien, on ne voudrait pas qu'il y ait de la dominance. Il y a beaucoup de débats théoriques autour de ça. Et en fait, quand on regarde les loups vivre dans la nature, les loups, ils vivent en famille et la dominance, c'est pas non plus leur point essentiel dans la vie. Hein.
Ouais.
Donc, mais moi, je crois qu'il y a encore une troisième voie, ce qui est que les hommes et les loups en train de devenir chiens avaient un intérêt réciproque les uns pour les autres.
Ouais.
Et qu'ils ont convergé, qu'ils se sont approchés les uns des autres parce que ça les intéressait et qu'être au contact, c'était bien, c'était chaleureux.
Justement, Antonio Fischetti, vous parlez aussi de la société des chiens. Hein. Je rappelle, dans ce livre pour les juniors, hein, on apprend plein de choses, que les chiens vivent généralement effectivement en compagnie de l'homme, mais qu'ils ont aussi une vie sociale propre entre eux, indépendamment de nous.
Oui, il y a eu de grands débats justement, puisque pendant très longtemps, hein, on a dit que le chien avait besoin d'un dominant qui vivait en meute et que l'homme c'était le chef de meute. Et cette vision est totalement dépassée aujourd'hui par, disons, elle est contestée par la plupart des éthologues, des scientifiques, hein, puisque le chien descend du loup, mais le chien n'est plus un loup et elle a conduit aussi à des comportements erronés, puisque on disait par exemple que l'homme doit être le chef, faire voir comme le dominant, et eh bien chez les chiens, que ce soit les chiens entre eux ou les chiens avec l'homme, c'est beaucoup plus complexe. Et puis apparemment, enfin, il semblerait que ce soit une société, disons, un petit peu anarchique. Il y a des dominants deux à deux. Hein, il y a des rapports de dominance, mais il n'y a pas un chef de meute en haut et hiérarchisé comme ce qu'on trouve chez les loups, en fait.
Extrait de votre documentaire « Les yeux dans la truffe », justement, autour du langage de la queue du chien. C'est très instructif. Là aussi, vous avez rencontré des scientifiques. Voici donc un extrait concernant ce langage.
En fait, la queue, c'est un organe qui permet de communiquer plein de choses et plein d'émotions. Et donc on peut voir qu'il y a des chiens qui battent de la queue quand ils sont contents, ou également qui battent de la queue dans certaines positions quand ils sont dans des grands états de tension. Donc ça sert à délivrer de l'information, c'est de la communication. Par exemple, un chien qui est relax, à qui on fait des petits câlins, il va avoir la queue plutôt basse et une grande amplitude de battement. Alors qu'un chien qui est en état de tension extrême, il va avoir potentiellement la queue très haute et avoir un battement d'une amplitude très diminuée.
Voilà, Antonio Fischetti, c'est Antoine Bouvresse qui est vétérinaire, qui a fait une thèse sur le langage de la queue du chien.
Oui, exactement. Parce qu'on dit toujours que le chien, il remue la queue quand il est content, mais en fait, pas seulement. Il y a tout un langage, il y a la position qui compte, il y a l'orientation, etc. En fait, il faut savoir décrypter, justement, tous ces indices pour comprendre son chien.
Oui, et c'est un décryptage difficile parce que c'est très subtil, justement, le langage du chien. Allez, on en parle avec le chat. Dans un instant, on poursuit notre discussion et vos messages, bien sûr, toutes vos questions sur le site de La Tête au Carré.
Chien de vie, chien de vie, mais par où me fais-tu passer? Chien de vie, chien de vie, chien de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier. Chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer. Et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Et puis courir jusqu'à la tombe, en ensemble qu'on est pressé. En slalom entre les bombes, celle qu'on a soi-même placée. Celle des autres, celle du monde, qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de secondes, et donc dans quel on est placé, hein. Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, moi qui n'avais rien demandé, hein. Chaîne de vie, chaîne de vie, chaîne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait s'immuniser, pour un nouveau pouvoir se fondre, dans la masse des civilisés, dans laquelle les cons abondent, les cons aigris, les cons grisés, les cons vernis, les cons frisés, les cons groguis, les cons rasés, et un con à chaque seconde, une nouvelle variété, qu'il nous faudrait apprivoiser, hein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, hein. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé. Fallait laisser glisser tous ces sentiments qui nous plombent, comme s'il fallait les effacer, alors qu'on a le cœur qui gronde et qu'on voit bien qu'il est blessé. Même si on a déjà trouvé la blonde qui nous permettrait d'oublier la profondeur à laquelle, oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, oh. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout essayer. Toutes celles qui passent sur la route et toutes les déshabiller pour s'économiser du doute, qu'on aurait voulu y goûter. Juste un petit peu, juste quelques gouttes, pas trop pour pas s'habituer, assez pour fracasser son couple. Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie, pas où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé à un chien de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer? Chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé.
Chienne de vie, c'est Zoufri Maracas sur France Inter.
Parlez-moi du chien.
Oh non.
Eh bien, c'est un chien. Ah, ça je le vois. Bonjour mon gros. Bonjour mon gros toutou.
C'est un Saint-Bernard.
Il est superbe, il a un pédigré.
Bonjour.
Oh oui.
Oh, on est un gros joli toutou. On remue sa queue. Oh, on est gentil, oui. On a sa laisse, on veut venir avec sa maman. Oui, oui. Oh, allez, viens, viens voir sa maman et son papa. Allez, viens, viens avec moi. Ils sont bêtes les gros chiens, mais c'est pour ça que je les aime.
C'est bien ce que je pensais.
Ce qui est bien, c'est que ça obéit beaucoup mieux que les enfants, les chiens.
Donne la grosse papate. Oh, qu'il est gentil, le toutou, le toutou. Oh, c'est qu'elle adore sa maman, son beau gros toutou, oui.
On adore cet extrait, c'est Beethoven en 1992 pour parler donc des chiens et des chats dans la tête au carré cet après-midi. Claude Beata, vous êtes psychiatre vétérinaire. Dans le cas précis que vous venons d'entendre, vous vous occupez en priorité du maître ou de l'animal?
Jamais, on s'occupe jamais du maître, bien évidemment.
Ah, c'est pas vrai ça.
Alors, on a, on a en face une relation.
Oui.
Mais par contre, on ne prend jamais en charge.
Bien sûr. Ouais, mais vous parlez au maître.
On ne joue pas au psychiatre.
Il a des choses à entendre quand même de vous.
On parle au maître, on lui explique la relation, ce qui peut se passer, etc. Mais vraiment, on est focalisé sur l'animal.
Oui, qu'est-ce que vous pensez là, de ce que vous venez d'entendre dans
ce texte? Je pense que la dame, elle parle juste comme il faut au chien.
Ah bon?
Mais bien sûr.
Non.
C'est-à-dire que ça a été montré. C'est-à-dire quand on a un chiot, si c'est un chiot, et c'est un chiot à ce moment-là, c'est quand il arrive et qu'il est chiot. Les chiots, c'est comme les enfants. Vous savez, on a dit pendant des décennies aux femmes qu'il ne fallait pas faire cette espèce de maternage, la façon dont les femmes parlent à leur bébé, où maintenant on sait que c'est une espèce d'objet sonore qui leur fait beaucoup de bien, et que si vous parlez à un chiot, que vous lui parlez de façon neutre et que vous lui parlez comme ça, vous regarderez la différence, il comprend parfaitement ça, il va se mettre à se tortiller, il va se mettre à y répondre, et c'est quelque chose qui lui parle.
Tout cas, vous êtes l'auteur avec Vinciane Després et Éric Baratet, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, de ce livre Chien-chat, pourquoi tant d'amour, et c'est Catherine Vincent en fait, qui vous a réuni et interrogé, hein, Vinciane. Pour cet ouvrage qui sort aux éditions Belin, et puis Antonio Fischetti, Chien et chat sous la loupe des scientifiques, ça c'est chez Actes Sud Junior. Jacques nous dit ceci, le transfert affectif qu'occasionne la possession d'un animal domestique n'est-il pas lié au fait que beaucoup de nos concitoyens ne vivent plus au contact de la nature et recherchent ainsi de la compensation quant à la compagnie de chiens et de chats? Vinciane Després.
Moi, je l'entends souvent cet argument, il me surprend toujours, parce que d'abord, qu'est-ce que c'est que la nature? Alors, je ne vais pas faire toute une démonstration philosophique, mais on sait que la nature, c'est une espèce de convention occidentale contemporaine, et que donc dire les chiens et les chats seraient la nature, bon, ben, c'est parce qu'on a mis des êtres, parce qu'ils ont de la fourrure et qu'ils ne parlent pas la même langue que nous.
Parler de la ruralité, de l'urbanité quand même, pour essayer d'étayer.
Alors, ça, ce sont des catégories tout à fait, bien sûr, tout à fait légitimes, évidemment. On peut faire la différence entre un effort.
Parce que là, on peut en dire des choses, justement.
Et la campagne. Mais d'abord, est-ce que les gens auraient la nostalgie? Est-ce que les gens vivaient tant que ça avec les animaux auparavant? Ben non, parce que tout le monde n'était pas paysan. Donc, il y avait quand même pas mal de gens qui vivaient en ville. C'est pas arrivé depuis 50 ans, la vie en ville. Mm-hmm. Et donc, comment est-ce qu'on expliquerait, alors que brutalement, il y aurait une nostalgie pour quelque chose qui n'a jamais existé réellement pour une majorité de gens? Ben voilà, c'est exactement le problème. C'est d'essayer de trouver une raison par un âge d'or. Mm-hmm. Et à nouveau, je pense que ce type d'hypothèse, je trouve que, bon, elles sont intéressantes. Ce sont des fabulations. On crée une espèce de mythologie. Mais elle dénote de nouveau le sentiment d'une anomalie dans le fait d'aimer les animaux. Et c'est cette anomalie, moi, que je conteste. Je dis, mais tiens, mais c'est un faux problème à la Bergson, quoi. C'est de dire, tiens, mais si on les aime maintenant tant, c'est par rapport à un non-être auparavant,
une
par rapport à un être, etc.
Voilà. Un manque.
Et donc, c'est vraiment le
Et vous rejetez cette idée-là.
Et je rejette cette idée-là. Parce que pour moi, il y a une raison beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce que les gens aiment les animaux? Parce que c'est la question. On ne demande pas pourquoi les gens aiment les enfants. Pourquoi? Parce que ça paraît normal. Et que c'est évident que beaucoup de gens aiment beaucoup d'enfants. Je dis pas que tous les gens aiment tous les enfants. Ben pour les animaux, les chiens et les chats sont souvent aimables. C'est-à-dire que ce sont des êtres relationnels qui savent s'y prendre avec nous, qui sont de merveilleux manipulateurs de sentiments. Et donc, forcément, qu'on les aime, on n'a pas tellement le choix. Enfin, certains d'entre nous.
Claude Beata.
Que pour aller tout à fait dans le sens de Vinciane, en fait, en plus, quand on regarde les bases physiologiques, neurotransmettrices, phéromonales de l'attachement, elles passent totalement à la barrière des espèces. Donc bien évidemment, quand on regarde un chiot avec ses grands yeux, avec sa bouille ronde, etc. On va avoir cette espèce de mouvement intérieur qui est un mouvement physiologique et naturel d'envie de soins, d'envie de tendresse, d'envie de contact. Et donc, bien sûr, en fait, je crois que pour la plupart des personnes, la question ne se pose pas. Un animal, un chien, un chat, c'est un animal aimable qui va répondre en plus à aux soins qui sont donnés, qui va répondre à la demande de contact, à la demande de tendresse. Donc pour les gens, c'est juste quelque chose de totalement naturel et sympa.
Antonio Fischetti.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle la néoténie, hein, c'est-à-dire le fait que les animaux domestiques aient des caractères de nouveau-nés, justement, un grand front, de grands yeux. Mais on peut se dire aussi que ça ne vient pas par hasard. C'est parce que au cours, disons, de la sélection du chien ou du chat par l'homme, on a choisi des animaux qui justement ressemblaient, avaient ces traits de nouveau-nés et qui nous éveillaient des émotions justement d'attachement en nous. En fait, donc c'est un petit peu dans les deux sens. Les chiens nous manipulent, mais nous les avons aussi manipulés en les sélectionnant pour qu'ils ressemblent à des enfants.
Claude Béatin, en tout cas, le statut de l'animal a beaucoup changé, hein, quand même. On voit bien que les relations homme-animal se sont considérablement transformées.
Oui, j'en suis pas sûr. Que ça soit considérablement
transformé. Mais il y a des statuts déjà qui leur donnent une place.
Sur le plan légal, là, il y a une avancée.
Et ça change quand même beaucoup de choses,
depuis février, où en fait, en France, il y a juste une mise en harmonie des différents codes, parce que le code pénal...
Mais c'est pas une façon de mieux respecter l'animal,
hein. Ben, on espère. Hein. Dans le code pénal, il y avait déjà la notion de cruauté, d'animal être sensible, et qui n'existait pas du tout dans le code civil, où l'animal était classé strictement dans la rubrique des choses, puisqu'il n'y avait pas d'autres rubriques. Donc, maintenant, il y a un petit paragraphe qui dit, les animaux sont des êtres sensibles.
Hey.
Donc ça, c'est une vraie avancée. Les animaux sont des êtres sensibles. Pour tout le reste, ils appartiennent à la catégorie des biens meubles.
C'est ça. Donc, la scène des prés. Ça bouge quand même.
Oui, ça bouge terriblement. Et il y a d'autres choses où on voit que ça bouge et on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est cause et qu'est-ce qui est conséquence. Moi, je pense, quand j'ai commencé à travailler sur les animaux comme philosophe, il y a 20 ans d'ici, on me considérait comme une anormale. Je veux dire, c'était pas du tout admis. Et on considérait que c'était très exotique, très original. Mais enfin, bon, c'est très bien, elle fera des choses plus sérieuses. Elle reviendra à Kant. Elle reviendra à Kant quand elle aura un peu mûri. Et puis, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Mais travailler sur les animaux est tout à fait légitime. C'est même tout à fait intéressant. Et le nombre d'expositions qui se font, le nombre de livres qui s'écrivent, etc.
Et là, il y a vraiment il y a beaucoup de scientifiques.
C'est incroyable le nombre de choses de recherches.
Il y a tout et n'importe quoi, d'ailleurs. Hein.
C'est exact aussi. Hein? C'est exact. On ne dira pas de nom. On ne dira pas de nom, Mathieu. Mais ce qui me semble intéressant, c'est donc qu'il y a 20 ans d'ici, ça restait, l'exceptionnalisme humain restait tout à fait. Je veux dire, aller à l'encontre de l'exceptionnalisme humain, c'était prendre des risques. C'était se faire critiquer, insulter parfois, etc. Alors qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose de beaucoup plus négociable. Et un intérêt réel des gens pour les documentaires, pour l'actualité scientifique, le fait de parler des rats, par exemple, une espèce de simulacre de vaisseau spatial, c'est quelque chose qui intéresse les gens aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 20 ans d'ici, personne n'y aurait prêté attention, on aurait fait attention à autre chose à propos de ce vaisseau, possibilité de vie sur Terre, ailleurs que sur la Terre, parce que c'est ça qu'on sent aussi dans ce projet. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que les scientifiques ont été en partie moteurs aussi de ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à intéresser le public, ils ont réussi à produire des types de recherches qui pouvaient mobiliser les gens, et en même temps, les gens ont, je pense, encouragé les scientifiques à continuer dans cette voie. Donc c'est vraiment quelque chose qui change très fort.
Antonio, qu'est-ce qu'il dit ?
Je voudrais dire juste un mot sur les scientifiques, justement, puisque dans mon livre, moi, j'ai essayé de prendre des petites questions anecdotiques, hein, comme la queue, comme les moustaches du chat, ce genre de choses, le miaulement, et puis de regarder ce que les scientifiques en disaient, de me plonger dans la littérature scientifique, et j'ai été vraiment étonné de constater qu'il y avait beaucoup moins d'études scientifiques sur le chat et le chien que sur d'autres animaux.
Le singe,
l'éléphant, par exemple, prenons par exemple le miaulement, il y a beaucoup plus, infiniment plus d'études sur le chant des oiseaux d'Amazonie ou sur le barissement des éléphants que sur le miaulement du chat. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que parce que c'est moins exotique, peut-être les chercheurs s'excitent plus en travaillant sur d'autres espèces plus exotiques, ou parce qu'on a l'impression de tellement les connaître parce qu'on vit toujours à côté, mais toujours est-il que, en fait, paradoxalement, ils ont beaucoup moins été étudiés que d'autres animaux.
Les chiens commencent à être un peu plus étudiés. Maintenant, il y a une quantité de recherches. Les chats, à mon avis, que vous continuez à échapper, fait, ça, c'est Vicky Horn.
Ils sont un peu irréductibles, quoi. Ils se prêtent pas facilement à l'expérimentation.
Mais voilà, c'est ce que Vicky Horn disait. Une fois qu'ils ont compris qu'on leur demande de faire quelque chose, ils ne le feront pas. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de faire plaisir, mais parce que c'est trop important pour eux de faire plaisir, alors ils ne veulent pas le faire sur commande. Alors, c'est elle qui le dit. Mais pour les chiens, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant.
Sur les chiens, justement, il y a. On pousse. Il y a des chercheurs qui commencent à poser des questions intéressantes.
Oui, tout à fait.
Et respectueuses. Je pense à Adam Miklosi à Budapest, par exemple.
Quel type de questions ?
Ou Frédéric Range à Vienne, qui pose, par exemple, une certaine éthologie. Alors, pourquoi le chien n'a pas été étudié ? Parce qu'on voulait étudier, l'éthologie, elle veut étudier dans le
sauvage.
Milieu naturel.
Oui, le sauvage.
Or, le chien dans le milieu naturel n'existe pas. Le milieu naturel du chien, actuellement, c'est la famille. Et donc, Miklosi, par exemple, a fait un Family Dog Project, et il s'intéresse au chien dans la famille. Donc, il lui a posé des tas de questions qui montrent vraiment que le chien peut avoir un intérêt. À Vienne, par exemple, ils ont démontré que les chiens sont capables d'imitation sélective. Ce qui est un grand dogme de l'éthologie qui disait que les chiens n'étaient pas capables d'apprentissage par imitation, de regarder notre chien et de savoir faire exactement comme lui en fonction de la situation. Ils ont fait une expérience, je vais essayer de la dire rapidement parce que vraiment elle est très intéressante. Il fallait appuyer sur quelque chose avec soit avec sa patte, soit avec sa bouche, et les chiens ont regardé d'autres chiens le faire. Si on regardait un chien qui le faisait, qui avait sa bouche coincée par une balle et qui actionnait avec la patte, eh bien eux, quand ils n'avaient pas de balle dans la bouche, ils le faisaient avec leur bouche parce que c'était plus simple. Donc ils étaient capables de vraiment comprendre quel était l'intérêt du truc. Ça, c'est très joli.
Vinciane Després, une question de Larry. Que pensez-vous de la modification de la loi danoise, l'interdiction de la zoophilie le mois dernier ?
Alors là, il y a toute une polémique qui a commencé déjà il y a bien plus longtemps que ça, en 2005, et notamment aux États-Unis, parce qu'un cas de zoophilie est arrivé devant les tribunaux, et ils se sont rendus compte dans l'État de Washington qu'il n'y avait pas de loi contre la zoophilie, ce qui était très embêtant parce qu'ils avaient peur de transformer l'État en un lupanar zoophilique. Ils avaient découvert en effet qu'il y avait quand même des pratiques relativement... Et au même moment, en France, il y a eu l'affaire Gérard X, dont a beaucoup parlé Marcella Iacob, et elle en a parlé de manière très intéressante. Alors, ce que les géographes ont étudié un peu, en fait, les géographes, ils font des cartes. Ils font de l'anthropologie, mais avec des cartes. Et qu'est-ce qu'ils ont étudié ? Ils ont étudié, tiens, comment se font les lois, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Une extension incroyable depuis une vingtaine d'années de toutes les lois contre la zoophilie, qui pénalisent la zoophilie. Et ce qu'ils disaient, ces géographes, c'est extrêmement intéressant, c'est le signe que le pouvoir est en train d'entrer dans le domaine de la sexualité. Et eux voyaient ça comme un signal d'alarme qu'avait lancé Michel Foucault déjà dans les années, fin des années 70, début des années 80, en disant, ça c'est vraiment le signe que le pouvoir est en train de prendre de plus en plus, de grignoter les espaces de la vie privée et d'entrer dans la sexualité des personnes.
Mais c'est plutôt une bonne chose, non, qu'il y ait des lois contre la zoophilie ?
Je n'en suis pas si sûre.
Ah bon ?
Je n'en suis pas si sûre à cause justement de ce que je viens de dire. Je pense que les lois qui régissent la sexualité des personnes ne sont pas nécessairement des lois qui sont toujours favorables. Je suis méfiante.
Bon, Claude Béatin, un mot quand même là-dessus.
Je pense que ce que veut dire Vinciane, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y a un arsenal de lois qui protège l'animal contre la maltraitance.
Voilà.
Et que dans certains cas, évidemment, la zoophilie est de la maltraitance. Dans ce cas-là, on peut
On est d'accord. Vous. Allez, on se retrouve dans un instant. Dernière partie de l'émission, les messages, franceinter.fr. Faire.
Love is all I'm fighting for. Can you force me?
Fire the Toys à l'instant.
La tête carrée sur France Inter.
Claude Beata, Vinciane, Després, avec ce livre Chien-Chat, pourquoi tant d'amour aux éditions Belin, et puis Antonio Fischetti, Chien et Chat sous la loupe des scientifiques, et bien donc l'exposition qui est à voir en ce moment à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Chien et Chat, et c'est jusqu'au mois de février, donc vous avez le temps de pouvoir vous rendre à Paris. Les questions des auditeurs, Philippe nous dit ceci, j'ai plutôt peur des chiens. Je me suis fait souvent attaquer par des chiens que j'avais regardés dans les yeux, des chiens plutôt gentils selon leur propriétaire. Pourquoi regarder un chien dans les yeux est-il déconseillé, Claude Beata?
Parce qu'en fait, entre chiens, le regard dans les yeux, c'est un regard où on ne connaît pas le statut de l'autre et où il y a un petit peu de défi. Donc effectivement, des chiens qui ne réagissent pas si on ne les regarde pas ou si on regarde d'autres parties de leur corps, si on se met à les fixer dans les yeux, on va les inquiéter, on va déclencher une agression.
Bon, c'est comme les chimpanzés, ça. Il faut faire attention, apparemment.
Et comme certaines personnes dans la rue.
Aussi. Les enfants, en tout cas. Les enfants et les animaux de compagnie. Alors, par rapport à l'adulte, qu'est-ce qui diffère, justement, dans la relation, dans l'attachement, dans l'apprentissage?
Je crois que, justement, alors, pour beaucoup d'enfants, il n'y a pas de question sur le fait que l'autre est un individu, est une personne aimable. D'accord? Un adulte va toujours se dire, oh mon Dieu, là, je fais l'idiot avec ce chien, je me conduis de façon un peu puérile. Mmh. Et justement, un enfant, il va considérer l'autre être vivant comme un partenaire de relation et de dialogue sans se poser question. Donc, il va établir généralement des liens qui sont forts.
Ouais, avec un apprentissage de la temporalité aussi, de la vie ou de la mort, évidemment.
Et de la mort. Souvent, quand on offre un chien ou un chat à ses enfants, on leur offre souvent, malheureusement, le baptême de la mort et du deuil. Hein, et c'est quelque chose qui peut se préparer aussi et auquel, généralement, ils réagissent bien si on leur laisse la possibilité, justement, de pouvoir l'exprimer. De pouvoir parfois ritualiser, hein, de pouvoir par exemple enterrer, ce que je cite dans le livre avec le cas de mon fils, qui m'a autorisé à le faire, d'enterrer même un hamster, parce que pour lui c'était important de marquer ça.
Ouais. Chien et chat, donc sous la loupe des scientifiques, Antonio Fischetti, il faut parler des illustrations de Sébastien Morin, hein, qui vous a accompagné, qui fait des choses très jolies et puis très drôles également sur tous les thèmes, la toilette de chat par exemple. Ça c'est intéressant parce que c'est vrai que les chats passent un temps à se lécher, mais c'est incroyable. En dehors de dormir d'ailleurs, c'est manger et se lécher quasiment.
Oui. Moi, je suis parti de détails, enfin, disons, de comportements de la vie de tous les jours, hein, quand un propriétaire peut observer, par exemple, le chat qui se toilette, et puis, enfin, moi, quand je vois un chat se toiletter, je me dis, pourquoi il fait ça? Et donc, c'est pas simplement parce qu'il est sale, non. Il doit y avoir une autre raison. Et puis, donc, voilà, j'ai enquêté auprès des chercheurs, des spécialistes, et puis après, il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, une d'elles, c'est de se dire que, eh bien, en fait, s'il se lèche comme ça, c'est un peu pour remettre à zéro toutes les odeurs qu'il aurait récupérées tout au long de la journée et il remet sa propre odeur sur tout son corps. C'est une des hypothèses.
Ouais. Alors par exemple, la souplesse du chat aussi pendant la toilette, ça c'est assez étonnant. Extrait d'un documentaire sonore Animal Lovers qui avait été diffusé dans les Nuits Magnétiques de France Culture en 91.
C'est quand même un animal, c'est un animal métaphysique. Il suffit de regarder les yeux d'un chat. C'est le temps immobile, mais qui passe. Moi, je suis fasciné par la grâce, l'habileté, la sûreté du geste du chat. Il peut se mettre dans n'importe quelle position. N'importe qui se mettrait comme ça, un peu de traviole. Même quand il se lèche le derrière, eh bien, il est gracieux. C'est pas vulgaire. Il y a de la classe, quoi. Enfin,
Et c'est pas donné à tout le monde, hein, Claude Beata. Claude Beata. Il faut savoir caresser un chat ou pas?
Ah oui, alors, bien sûr. Il y a beaucoup de plaisir dans la caresse avec le chat, mais c'est un animal qui supporte pas l'approche brutale. Enfin, beaucoup d'entre eux. Hein. Après, il y a des chats qui supportent tout et d'autres qui supportent rien. J'ai eu, il y a quelques jours en consultation, un chat intouchable.
Ah bon?
Intouchable. Il en depuis 13 ans, cette chatte. Personne n'a jamais pu la caresser plus de 2 secondes. Wow. Sinon, elle griffe. Et tout le monde l'aime dans la maison.
Et comment fait le vétérinaire alors, pour s'en occuper?
Ah ben, il n'a pas pu, le vétérinaire. Il a fait comme les autres. Il s'est tenu à distance respectueuse.
Donc c'est un échec total, apparemment.
Non. C'est pas un échec, c'est un respect de
Oui, mais pour lui faire distance, une piqûre, c'est pas facile.
Ah oui, mais là, moi,
pour lui faire ses vaccins.
Donc... Faire. Si, d'ailleurs, on a eu des examens à lui faire, on l'a endormi.
Hein, ah oui, mais voilà, c'est ça. Sûr, oui. La dérive de l'attachement à l'animal, ça aussi, c'est un point du livre. Et c'est une chose qui se présente souvent aux psychiatres animaliers, Claude Beata?
la dérive de l'attachement.
Eh oui.
Alors, l'attachement, pour nous, il est très important sur un point. S'il n'y a plus d'attachement, et on le sent parfois, par exemple, avec des animaux hyperactifs qui ont fait trop de bêtises dans leur vie, qui ont fait... S'il n'y a plus d'attachement de la part du propriétaire, on sait qu'on va être dans une mauvaise posture pour soigner.
Mm-hmm.
Après, il y a des cas de troubles de l'attachement chez le chien, là, bien sûr, mais c'est pas, enfin, l'attachement...
Il y a des chiens bipolaires ou pas ?
Oui. Oui, il y a des chiens bipolaires.
Jean-Luc Brand parlait tout à l'heure en plaisantant, mais...
On les appelle dysthymiques, nous, pas bipolaires, mais il y a des chiens qui ont des troubles de l'humeur avec des variations très importantes, avec des phases productives dans lesquelles ils sont très agressifs et des phases où ils peuvent être...
Et on les soigne avec des psychotropes.
Et on les soigne avec des psychotropes. C'est pour ça qu'on parle bien de psychiatrie vétérinaire, c'est que autant il y a des animaux... Les animaux, et Henriet le disait il y a 50 ans, en 64, les animaux ont un cerveau, il y a une psychologie animale, comment n'y aurait-il pas une psychopathologie ?
Alors justement, la question des émotions chez les animaux, Vinciane Després, ça intéresse beaucoup les scientifiques, les chercheurs. On ose aborder cette question aujourd'hui quand même, et celle de l'intelligence, de la pensée animale aussi, hein.
Oui, alors ça c'est vraiment aussi quelque chose qui a changé en 30 ans à peu près. Hein. Je me souviens dans les années 80, fin des années 80, dans le dictionnaire de l'éthologie de MacFarlane, qui était notre bible quand on étudiait l'éthologie à l'université, eh bien les animaux ne connaissent que 3 ou 4 émotions primaires comme la peur, la colère pas pour tous, etc.
Ouais.
Et puis comme ça, en quelques années, il y a eu vraiment une très très forte modification et qui a des conséquences. Qui a des conséquences d'abord justement sur des pratiques comme celle de Claude, qui a des conséquences aussi sur la manière dont on conçoit les animaux et qui a eu énormément de conséquences sur les recherches autour du bien-être. Parce que non seulement ces recherches avaient commencé à envisager la souffrance, mais ont pu étendre le registre de la souffrance. Donc, ne plus dire simplement l'animal a des douleurs, donc des problèmes physiques, mais des vraies souffrances. Et on a pu étendre le registre des souffrances à des souffrances comme de l'anxiété, comme de la peur, et en disant ce sont des vraies souffrances. Et aussi, ces dernières années, il y a eu quantité de recherches aussi sur la possibilité que l'animal puisse se sentir heureux. Et ça, sans une définition des émotions qui puisse être étudié par les biologistes, parce que c'est ça qui a compté aussi, et qui puisse en même temps être étendu à la sphère des vivants dans une beaucoup plus grande proportion, ça n'aurait pas été possible.
Isabelle nous dit, je vis depuis mon enfance avec des chiens, j'ai décidé il y a 8 ans, en adoptant ma chienne, de créer un véritable dialogue avec elle, en apprenant à décrypter son langage, les aboiements, les attitudes corporelles, les mimiques faciales, comme elle le fait pour moi, et ça nous a permis de bien nous comprendre et d'avoir une fabuleuse relation.
Ah, ça, c'est absolument magnifique. Ce sont des histoires qu'on entend. Toi, tu les entends parce que tu es dans ta pratique. Moi, je les entends parce que les gens m'envoient leurs histoires, généralement, pour qu'on en parle. Et ce sont des choses où on voit qu'il y a vraiment... Alors, ce que Daniel Stern appelle l'attunement, l'accordage, où il y a vraiment un accordage de rythme émotionnel, et où on voit deux êtres qui sont en train de se mettre dans un agencement et de se transformer mutuellement.
Isabelle dit, je respecte les émotions de ma chienne, son caractère, mais nous avons des désaccords, mais toujours réglés en douceur et compréhension réciproque.
Et ça, c'est rassurant.
C'est magnifique, non, Claude Beata?
Oui, on peut tout à fait négocier avec son animal. On n'est pas du tout, même si on pense, par exemple, que pour le chien, c'est important qu'il y ait un cadre, on n'est pas du tout obligé d'appliquer ce cadre avec violence. On peut très bien négocier et expliquer au chien que ça peut se faire, ça peut pas se faire. Comme lui va nous expliquer qu'il y a des choses qu'il accepte et d'autres qu'il n'accepte pas.
Le sens de l'humour chez les chiens, vous y croyez ou pas ?
Beaucoup.
C'est vrai ?
Beaucoup, oui. J'y crois beaucoup. Je l'utilise dans ma pratique quotidienne. Par exemple, c'est vraiment une définition de l'anxiété. Les chiens anxieux n'ont pas d'humour, comme beaucoup de gens anxieux.
Ouais. Hein,
et par des manœuvres simples, on peut montrer aux gens qu'il faudrait que leur chien acquiert un peu plus de sens de l'humour pour mieux se sentir dans la vie.
Voilà, et c'est passionnant parce qu'évidemment, ça nous concerne de très près dans notre vie quotidienne pour beaucoup de Français. Chiens et chats sous la loupe des scientifiques, c'est chez Actes Sud Junior, Antonio.
Oui, il y a aussi Les yeux dans la truffe, une série audiovisuelle que vous pouvez voir sur Univers Science TV.
Voilà, qui est en lien aussi sur La Tête au Carré. Et puis ce livre Chien-Chat, Pourquoi tant d'amour, c'est aux éditions Belin, Claude Beata et Vincent Després. Merci beaucoup d'être venu dans La Tête au Carré.
Merci.
Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour, à côté le sujet est beaucoup moins souriant, mais il est important, il est grave et c'est une façon de rendre hommage à Daniel Pearl. Donc Daniel Pearl, l'assassinat de notre confrère américain en février 2002 à Karachi. Nous en parlerons avec Jean-Pierre Perrin, journaliste à Libération, qui est notre partenaire.
À tout à l'heure Fabrice, merci.